culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Je m'appelle Amandine et je suis très heureuse de t'accueillir, chers auditeurs, chères auditrices, pour vivre un temps de culte ensemble. Alors, pour nous accompagner aujourd'hui, je suis entourée de trois hommes de Dieu. C'est un peu exceptionnel. Normalement, on est plus des femmes ici.
C'est vrai, c'est vrai.
Alors, deux chroniqueurs que vous connaissez bien, Stéphane Briand. Bonjour, messieurs.
Salut.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Et puis, notre invité qui nous rejoint pour la deuxième fois, Andrei Ostrovski.
Correct, merci.
Bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et alors, si j'ai bien compris, tu es pasteur adventiste à l'église hispanique de Lausanne et à l'église lusophone de Genève.
C'est correct, oui.
Donc, si j'ai bien compris, tu parles beaucoup de langues.
Quelques-unes.
Franchement, je suis admirative. Alors, veux-tu ajouter quelque chose à ma présentation, déjà ?
Non, ça te prend.
Ok.
Merci beaucoup.
Et la semaine dernière, tu nous as parlé de comment vaincre nos ennemis, qu'apparemment, des fois, on peut être soi-même notre propre ennemi. Du coup, comment se vaincre soi-même ? De quoi tu veux nous parler aujourd'hui ?
Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on vraiment puisse réfléchir sur une phrase, sur une déclaration. Et c'est que... je ne comprends pas ce que dit la Bible. Donc, ce sera plutôt une réflexion entre nous tous, j'espère, sur cette déclaration, je dirais comme ça.
Je ne comprends pas ce que dit... Je pense qu'on peut se reconnaître des fois.
Je ne comprends pas ce que je suis en train de lire.
Et je suis très heureuse de pouvoir avoir cette réflexion sur la Bible. C'est un sujet qui me parle beaucoup. D'ailleurs, l'année dernière, on avait fait un culte espoir autour du thème « Pourquoi ?» lire la Bible. Donc voilà, je prie que tout ce qui sera dit, ce qui sera échangé, ce qui sera écouté, puisse rendre gloire à Dieu, puisse être vraiment guidé par son Saint-Esprit.
Je croyais que Dieu c'était un papa gâteau, une idole pour les faibles, de l'opium pour le peuple. Je m'étais trompé de Dieu. Je m'étais trompé de Dieu. Moi je croyais que Dieu c'était un père fouettard qui me casserait la gueule à mon premier faux pas. Je m'étais trompé de Dieu. Je m'étais trompé de Dieu. Dieu à moi, c'était juste un fantôme, toujours en voyage, jamais là. La Bible n'était qu'un répondeur standard. De toute façon, quand je téléphonais, c'était occupé, occupé. Si Dieu ne répond jamais quand on les appelle, figé sur leur nuage de poussière. En des dieux fabriqués par les hommes, combien de fixettes ont fait sur ma porte? Faut encore que je paye la note de téléphone. J'étais tellement occupé à poursuivre des rêves que chez moi ça sonnait au piquet. Et le jour où j'ai raccroché, ça s'est mis à sonner. Je veux te rencontrer. Je suis à ta porte. Je sonne, j'ai un portable. Mais c'est directement que je veux te parler. Te parler. Il m'a parlé d'amour. Il m'a parlé de paix. Tout ce que les autres dieux ne pouvaient me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Il m'a parlé d'amour, il m'a parlé de paix, tout ce que les autres dieux n'avaient pu me dire. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone. Et c'est lui qui a payé ma note de téléphone.
Alors Stéphane, que souhaites-tu nous partager pour cette chronique « Dieu dans ma semaine » ?
Cette semaine, on étudiait la Bible avec les enfants et un de mes fils a dit « Papa, je n'ai pas compris ce que tu as lu, mais rien compris. »
C'est trop chouette qu'il ose te dire ça.
Oui, donc il parlait des versets que nous venons de lire, bien sûr, et c'est vraiment Apocalypse. C'était dans Apocalypse.
En même temps, tu as choisi.
Bon, voilà, bon. Je le comprends, mais moi, je n'avais pas très bien compris. Mais heureusement, on était en train de lire un livre qui expliquait cette partie-là de la Bible pour les enfants.
Okay.
Donc, on a pu expliquer pourquoi on avait lu ce verset. Mais c'est surtout... Je profite de cette situation-là vraiment pour prendre l'essentiel. C'est qu'il n'a pas eu honte de dire « Je n'ai pas compris
».
Et je pense que nous aussi, on doit avoir cette... C'est la même chose que les enfants, c'est ne pas avoir honte.
Oser dire.
Oser dire, parce que dans la Bible, il y a des passages très compliqués.
Bah oui.
Hier aussi, on regardait cette semaine un film avec les enfants qui parlait de l'histoire de l'Église adventiste, et on voyait que chacun comprenait de plusieurs façons différentes la Bible à un moment donné. Donc, même les grands savants ne comprennent pas très bien la Bible. Donc, il faut vraiment oser. Et parfois, si on n'arrive pas à comprendre, on peut demander de l'aide à un ami, à quelqu'un de la famille, au pasteur de l'église, un collègue, vraiment le faire comprendre. Et aussi, pourquoi pas demander à l'auteur lui-même de la Bible. Mais Dieu ne l'a pas écrit, mais c'est lui qui a inspiré la Bible. Donc il faut, je pense, il faut vraiment lui demander. Et chaque fois qu'on va lire la Bible, la parole de Dieu, il faut qu'on demande à Dieu. Donc pour cette semaine et pour tout le temps, vraiment appeler Dieu, prier Dieu avant de lire la Bible. Et vraiment, il faut faire confiance à Dieu.
Ouais, mais merci du partage. Alors, la promesse que j'aimerais te partager aujourd'hui est, je trouve, très profonde. Ce seul verset pourrait, à mon avis, être le sujet d'une prédication en lui-même. Alors, le voici. Il se trouve dans Jean, chapitre 17, verset 3. C'est Jésus qui parle à Dieu. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alors, connaître dans la Bible, c'est un terme très fort, hein. C'est pas, ouais, je le connais un peu, non, c'est connaître intimement. Notre Dieu est un Dieu de relation qui souhaite que nous le connaissions. Lui nous connaît parfaitement et souhaite que nous ayons une relation intime et personnelle avec lui et veut commencer dès aujourd'hui une vie qui se prolonge dans l'éternité à ses côtés pour tous ceux et celles qui ont placé leur confiance et leur amour en lui. Alors je trouve que c'est une promesse incroyable. Brillant, la parole est à toi. Louange en musique.
Alors, auditeurs, auditrices, voilà un groupe que j'aimerais te faire découvrir. Alors, peut-être que tu les as déjà entendus sur YouTube. C'est la Team Louange du Salève. C'est un groupe chrétien adventiste situé en France et plus précisément en Haute-Savoie. Et encore plus précisément sous le Salève. C'est un groupe qui chante les louanges du Dieu vivant et la bénédiction qu'il nous donne en son nom. Et le chant qui va suivre est une composition de leur groupe qui se centre sur la personne de Jésus. Le nom de Jésus, le Fils de Dieu, envoyé pour nous sauver. Oui, il est venu pour nous. Il est venu pour toi, son nom est Jésus.
je ne cesserai d'élever ton nom, car tu es digne de mon adoration, pour ce que tu réalises dans ma vie. Je veux simplement te dire merci, le Fils de Dieu venu sur terre, envoyé par notre Père, pour acheter du péché, nous sauver.
Bonjour Elder, merci beaucoup d'être disponible aujourd'hui pour ce témoignage. Et est-ce que tu peux nous te présenter pour nos auditeurs, auditrices, pour te connaître un petit peu plus?
Je m'appelle Elder, j'ai 21 ans et ça fait bientôt 2 ans que je suis dans l'église adventiste.
Et comment tu as fait pour connaître l'église adventiste? Comment est-ce que tu es déjà... Ouais, ça fait 2 ans, mais est-ce que comment tu es rentré pour une pub, quelque chose?
Je suis rentré dans l'église adventiste grâce à ma copine Eva qui était adventiste et je connaissais pas c'était quoi adventiste. Mais elle m'a expliqué, je suis allé visiter une fois pour son anniversaire, une fois le samedi. Et j'ai trouvé l'ambiance très spéciale. C'est pas comme l'église catholique que je fréquentais en tant que petit. Et c'était entre guillemets... un moment qu'on est entre amis, qu'on dit ce qu'on a appris de la Bible, on fait quelques résumés, c'est pas quelque chose qui est toujours pareil, c'est toujours quelque chose qui change. Et c'est un truc que j'ai apprécié, et je sentais vraiment Dieu qui était parmi nous. Et depuis, je n'ai pas quitté l'église, et maintenant je fais partie, et voilà.
Donc, c'est une fille que tu as entrée dans l'église. Dieu utilise tous les moyens possibles et imaginables. Mais tu as parlé aussi de l'étude de la Bible. Est-ce que tu avais à l'époque l'habitude d'étudier la Bible? Et est-ce que tu la comprenais bien? C'était facile de comprendre ou pas du tout? Tu as eu des difficultés à comprendre au début quand tu es rentré, de comprendre la Bible, les histoires, tout ça?
À l'église catholique, il y avait le catéchisme. On apprenait les bases, mais on n'utilisait pas la Bible. Ils en avaient des livres exprès pour ça. Et on avait 2 personnes qui nous expliquaient et on n'apprenait pas dans la Bible. On ne lisait pas la Bible, on ne l'avait pas. Avec l'église adventiste, j'ai appris avec Marcio, c'est le père à ma petite copine. Et pendant 1 an, j'ai appris la Bible, mais en lisant la Bible. Ce n'est pas avec un autre bouquin, non, c'était vraiment avec la Bible. Et là, on avait les preuves, ce qu'on disait était vrai. Mais des fois, il y avait quelques mots qui... Voilà, c'était un peu compliqué à comprendre. Tabernacle, au début, je ne savais pas c'était quoi, mais j'ai appris. Mais ça va. C'est un peu difficile au début, mais si tu es accompagné de quelqu'un qui a déjà l'habitude de lire, il peut t'expliquer plus facilement. Et après, ça reste dans la tête, quoi.
Donc, au début, c'était pas, parfois, la Bible peut être compliquée, hein. Ça dépend du passage que tu étudies, hein. Si c'est vrai, tu vas commencer à étudier le tabernacle ou les prophéties de Daniel ou d'autres prophéties, c'est vrai que c'est compliqué. Mais comme t'as dit, donc, t'étais soutenu par le père de ta copine. Est-ce que t'as eu d'autres, d'autres personnes qui t'ont aidé ou est-ce qu'elle-même, ta copine t'a aidé? Est-ce que tu continues à étudier la Bible maintenant que tu fais partie de l'Église, mais est-ce que tu continues à le faire?
En vrai, toute sa famille m'ont bien accueilli, m'ont bien aidé. Chaque fois que j'avais des questions, ils répondaient avec plaisir. Et j'étudie toujours, mais avec Eva. Toutes les semaines, on étudie. Et ça fait plaisir de mieux comprendre la parole de Dieu et de sentir son amour. Du coup, je vous conseille à tous d'étudier la Bible. Au début, c'est compliqué. C'est un peu ennuyant, mais après, moi perso, au début, c'était ennuyant, mais après, j'adore lire la Bible.
Pourquoi ennuyant? C'est pour comprendre, ouais. C'est intéressant, parce que parfois, les gens disent, non, tu vas commencer à lire, tu vas adorer, et c'est bien d'avoir un retour en disant, voilà, c'est ennuyant, mais pourquoi c'est ennuyant?
Parce que moi, je suis quelqu'un qui déteste lire. Je déteste lire. Je ne vais pas vous mentir, je déteste lire. Et je me suis forcé à lire la Bible. Bah, pour étudier la Bible, il faut la lire. Et je me suis forcé et je trouvais mon petit plaisir en connaissant les histoires qu'il y avait dans les Bibles. La vérité, c'est incroyable.
Et c'est quoi le passage que tu as trouvé au début compliqué? Et ensuite, quand tu as expliqué, hein, bien sûr, il faut connaître. Hein, c'est pas... Qu'est-ce que le passage maintenant, ton passage préféré? Ton histoire ou ton passage et le pourquoi?
Mon passage préféré, c'est la création dans Genèse. Et mon histoire préférée, ça reste toujours de Samson. Je ne sais pas pourquoi j'aime trop cette histoire.
Attends, pourquoi Samson? c'est
parce que depuis qu'il est né, il croit en Dieu, même s'il a fait ses erreurs. Oui, il a fait ses erreurs. Mais à la fin, il a reconnu et Dieu l'a pardonné. Et il lui a donné la force qu'il avait besoin pour tuer les gens qu'il devait. C'est une histoire magnifique, moi, je trouve.
Non, c'est ça qui est très bien avec la Bible, c'est qu'il y a pour tous les goûts, pour tout, chaque personne ne lit pas la même histoire de la même façon, parce qu'ils ont vécu différent, ils ont une point de vue différent. Là, mon histoire préférée, c'est Joseph, en Égypte. C'était la première histoire que j'ai vue.
Celle-là aussi, elle est bien.
Donc aujourd'hui, c'est pas fini. Est-ce que t'as tout lu la Bible aujourd'hui? C'est bon, t'es un expert de la Bible? Ça se passe maintenant aujourd'hui?
Pas du tout, j'apprends toujours. J'ai pas fini de lire la Bible parce que lire la Bible sans essayer de la comprendre, ça sert à rien. Il faut prendre son temps de comprendre ce que tu lis. Et moi, en tout cas, j'ai pas encore fini de lire et j'ai encore pour un moment.
Quelle est ta méthode d'aujourd'hui pour la comprendre? T'as dit que il faut continuer à l'étudier. Peut-être pour nos auditeurs qui ont du mal, comme tu as dit, qu'ils avaient du mal à étudier. Quel est un petit conseil que tu peux leur donner en disant, voilà, pour moi, ça fonctionnait comme ça, pour que je puisse aimer la Bible?
Sincèrement, je lis. Avec ma copine, je lis un verset. Et si on ne comprend pas, on le relit. Si on ne comprend vraiment pas, je pose des questions. Et moi perso, c'est comme ça que j'arrive à comprendre, c'est de relire. Si je comprends pas, je relis encore une fois. Et si j'arrive vraiment pas, je pose des questions à des gens qui ont plus d'expérience. Voilà.
Donc, il faut bien lire, relire. Il ne faut pas avoir honte de poser des questions. C'est ça que je trouve là dans ta réponse. C'est que vous n'avez pas honte de poser la question en disant que je ne comprends pas. Je trouve que c'est important pour tout le monde. Parfois, on ne comprend pas. Donc, il faut s'entourer avec des gens qui connaissent, qui ont déjà lu la Bible. Donc, c'est très important pour tout le monde. Merci beaucoup de ce partage. Et est-ce que tu peux encore donner un petit conseil à tout le monde qui nous écoute? Pour les jeunes, parce que tu es jeune, hein, tu as quel âge?
Ouais, 21.
21 ans. Donc, aujourd'hui, on dit que la Bible n'attire pas les jeunes. Donc là, il y a une preuve au contraire. Un jeune qui s'est intéressé par la Bible via l'amour. Mais quel est un petit conseil que tu peux donner à nos auditeurs et aussi aux jeunes aujourd'hui?
Un bon conseil, c'est suivre Dieu, parce que Dieu, c'est le bonheur. Parce que si vous suivez le bonheur de ce monde, c'est du bonheur éphémère. Il faut suivre Dieu. Il y aura des batailles, mais il y aura des victoires. Et je vous conseille de suivre Dieu, parce que c'est le meilleur amour qui puisse exister. Voilà, c'est un conseil que je vous donne, c'est rester dans la parole de Dieu. Voilà, c'est la meilleure chose.
Merci beaucoup. Donc, message donné. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et je te souhaite tout bonheur. Tu étudies et tu apprends à lire vraiment la parole de Dieu. Merci beaucoup.
On n'a rien.
Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est à toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus.
Je me rappelle une époque dans ma vie quand j'étais très inquiété concernant la Bible. Parce que je vraiment voulais comprendre tout ce que la Bible dit.
Ouh là là, c'était ambitieux.
Oui. Et quand j'arrivais dans certaines parties de la Bible, j'étais un peu, je ne sais pas comment dire, peut-être
frustré,
ouais. Même stressé et angoissé. Parce que je voulais vraiment comprendre ce que la Bible dit. Je voulais vraiment connaître ce que la Bible il dit pour moi et aussi pour partager avec les autres personnes. Je me rappelle pour la, c'était pas pour la première fois, mais c'était quand je me rapprochais avec ce type de vision, un livre de Lévitique.
Mm-hmm. Ah oui.
Donc j'essayais de comprendre ce qu'il dit, c'était vraiment pas évident. Et je pense que j'étais plus stressé avec le livre de Lévitique que pour, même pour les autres livres comme Daniel, Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de livres, de séminaires qu'on attend, qu'on déjà connaît un petit peu. Mais je rappelle que j'étais un peu angoissé même quand j'étais en train de lire le livre Lévitique et après des autres livres, il y a certaines parties dans l'Isaïe, certaines parties de Zacharie, on dira comme ça.
Ancien Testament, quoi, je
l'impression. Ancien Testament, mais pas que ça, parce que quand j'ai commencé à... Je me rappelle très bien le jour quand je commençais, je me suis dit, OK, il faut que je mémorise la Bible et je commençais à mémoriser le livre de l'épître de Romaine.
Okay, Romain.
Roman. Et c'était tellement philosophique, tellement théologique, et c'était quand même complexe. Donc je me ressentis un peu frustré parce que je me suis dit, bon, je voudrais comprendre bien la Bible. Et j'ai identifié que c'était quelque chose en moi, mais bon, j'ai commencé à prier pour ça et commencé à connaître à chaque fois plus, plus et plus. Et c'était, pas un jour, mais c'était quelques fois que je suis retombé sur quelques textes qui me faisaient beaucoup réfléchir sur cette question. Et je voudrais vraiment aujourd'hui partager avec vous deux textes.
Excellent.
Que quand je les ai lus, je me dis, OK, ça m'a donné d'espoir, mais ça désespérait encore un peu plus. Donc, accompagnez-moi.
OK.
Donc, c'est les évangiles. Évangile selon Jean, chapitre 2, et versets 21 et 22. Donc, regardez ce que l'évangéliste dit là. Donc, Jésus il est en train de parler. Et après, le texte, il dit. Mais quand Jésus parlait du temple, il parlait de son corps. C'est pourquoi, quand Jésus se réveillera du milieu des morts, ses disciples se souviendront qu'il a dit cela. Alors, ils croiront à ce qui disent les livres saints et aux paroles de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on trouve là? Donc, on trouve Jésus tout au début de son ministère. Donc, il vient de faire son premier miracle. Et jusqu'après son premier miracle, il est en train de discuter avec quelques personnes qui étaient là-bas. Et après, on se rencontre ça. Et on voit ici que Jésus est en train de dire quelque chose. Les disciples, ils ont écouté ça, ils ont retenu ça. Mais c'était quand qu'ils ont compris ça, et c'était quand qu'ils ont commencé à croire à ça que Jésus les a dit.
Trois ans plus tard.
Il sait que c'était quelque chose qui ça m'inquiétait encore plus.
En quoi ça t'a inquiété?
Parce que, imaginez-vous qu'un disciple, il a connu le cœur.
Ah, ils étaient avec eux qui connaissaient Jésus.
Donc, ils étaient avec Jésus. Mm. Ils passaient avec Jésus. Ils ont écouté Jésus parler. Ils ont eu cette opportunité de poser toutes les questions. Et Jésus, il a eu l'opportunité de répondre toutes ces questions. Mais pendant trois ans, eux, ils ont resté avec quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Mais selon le texte, ils n'ont même pas cru à ce que Jésus il a dit. Et d'une façon, d'un côté, ça m'a soulagé un petit peu parce que je me suis dit, OK, bon, si même les disciples avec Jésus, quand ils étaient ensemble, ce n'était pas tout qu'ils ont compris, ça m'inquiétait aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jésus il n'a pas répondu à ça? Pourquoi ils ont eu cette partie du message? Ça restait comme un voile jusqu'à trois ans plus tard. Donc, et maintenant, on tombe sur une deuxième histoire que je vous invite de m'accompagner aussi. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 1. Et ici, en fait, ce qu'on retrouve tout au début de ce chapitre, on retrouve la dernière conversation entre Jésus et ses disciples. Donc, vraiment la dernière, parce qu'après cette conversation, on voit que Jésus est en train de partir au ciel. Et la conversation, il se déroule comme ça. Donc, c'est quelques déclarations de Jésus. Donc, Jésus il est en train de lui dire quelque chose. Après, c'est les disciples qui lui posent une courte question. Et Jésus, il leur répond cette question. Et en train de qu'il parle, il remonte. Donc, okay. Vraiment, la toute dernière conversation et la toute dernière question. Et je voudrais qu'on lit ensemble cette question-là. Donc, la question était la suivante. Donc, c'est le Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 6. Il dit la suivante. Les apôtres sont donc réunis avec Jésus et ils lui demandent. Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Après ça, Jésus répond quelque chose et il part. Mais analysons cette question. Donc, en fait, pendant la vie de Jésus, Jésus il a prêché beaucoup sur
son royaume de Dieu,
ouais. Sur l'essence du royaume de Dieu, de quel type de royaume il va établir. Donc Jésus a beaucoup parlé de ça, beaucoup.
Et ils n'ont rien compris.
Et ils n'ont rien compris.
Puisqu'ils demandent si le royaume d'Israël va venir maintenant.
Ils ont dit, Jésus, ok, d'accord, nous sommes prêts. C'est maintenant que tu vas prendre toute ta force et nous allons rétablir ici, dans la terre, enlever les Romains. On va faire que maintenant le royaume d'Israël soit fort, soit glorieux.
Et Jésus, il parle.
Et Jésus, il parle. Et Jésus, il parle. Donc, encore une fois, ça me pose la question. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait pendant trois ans et demi? Si on parle même des choses basiques, Et Jésus, il n'a pas réussi à expliquer son message.
Mais Jésus est parfait, donc il ne peut pas avoir échoué.
Tout à fait. Donc, et c'était ça la continuation de mon réflexion, parce que c'était pas une faillance, c'était pas un échec, mais peut-être Jésus il a voulu une autre chose. Peut-être Jésus il a un autre but, pas que partager avec eux quelques enseignements, quelques doctrines, quelques connaissances cognitives, quelque chose qu'ils puissent simplement connaître. Et après, on peut se souvenir, quand Jésus était même avec eux, au fin de son ministère, il les a dit, n'inquiétez pas vous, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui ira vous tout expliquer ça. Donc, en fait, Jésus, ce qui m'interpelle dans ce texte-là, Jésus, il n'était pas en fait trop angoissé, trop stressé, si dans ce précis moment, les disciples ils ne comprenaient pas quelque chose de spécifique de son message, même si on parle de la nature de son royaume. Donc, ma question, quel était le but de Jésus? Si ce n'était pas qu'il expliquait toutes les doctrines, si ce n'était pas d'expliquer toute la théologie, c'était quoi? Et en fait, la réponse que moi j'ai eue est une réflexion que je voudrais partager avec vous. Que le plus grand cadeau que les disciples ils ont reçu, c'est l'opportunité de connaître à la personne du Jésus. Ils ont eu cette opportunité de marcher avec lui, de manger avec lui, de voir comment il parle, comment il prie, qu'est-ce qu'il priorise dans sa vie, comment il gère les situations stressantes, comment ils se comportent avec les personnes qu'ils sont, ils ont arrogants. Donc, en fait, la plus grande bénédiction que les disciples ils ont reçue, c'est pas que, je ne veux pas dire que c'est pas important, parce que Jésus, il a beaucoup parlé, et c'était vraiment quelque chose de valeur très grand. Mais dans ce précis moment, dans quelques moments de sa vie, les disciples, ils n'ont pas peut-être réussi de tout retenir, ils n'ont pas réussi de comprendre tout ce que Jésus voulait dire, ce que la Bible voulait dire, de comprendre tout ça. Mais ce qu'ils ont réussi, c'est de voir cette image de Jésus, de parler avec lui, de manger avec lui, de voir comment il se comporte, pour voir comment le Dieu, il est. Et mes amis, pour moi, cette réflexion, elle était soulageante. Et c'était soulageant.
En quoi, du coup, c'était soulageant pour toi?
Parce que pour moi, ça m'aidait à mettre les priorités un peu différemment. Ça m'aidait à se rapprocher à la Bible avec Jésus et de lui dire, Jésus, peut-être maintenant, je ne voudrais pas tout comprendre. Maintenant, là, de Lévitique, il y a tellement de choses que peut-être toutes les choses techniques, ce n'est pas à moi de comprendre maintenant. Donc, je te demande de m'expliquer dans ce moment. Mais maintenant, quand je suis en train de lire ça, je voudrais te connaître mieux. Je voudrais que tu te présentes à moi comme personne. Que moi, je peux connaître comment tu es, comment tu étais, comment tu seras pour te connaître plus comme personne. Et le reste, si je ne comprends pas une autre chose. Donc, je me suis dit que mon but, c'est de connaître mieux Jésus. Et le reste, demander que son esprit puisse me révéler ce qui est écrit dans sa parole, dans son temps.
Alors, cher auditeur, chère auditrice, tu te trouves au Culte Espoir et nous venons d'écouter André qui vient de nous partager sa réflexion sur le souhait de Jésus d'avoir avant tout une relation avec nous, que nous apprenions à le connaître et d'ainsi petit à petit pouvoir comprendre sa parole, sa Bible, son message. Alors, réaction à chaud, messieurs, que ressortez-vous de ce partage ?
Ben, moi, ça m'a beaucoup fait penser. Alors, j'ai pas d'enfant, mais par rapport à ton témoignage et par rapport à ce que tu as dit, je le vois un petit peu, cette relation que Jésus a pu avoir avec les disciples. Voilà, les disciples, ça leur a résonné en eux bien des années plus tard. Et ça me fait penser un peu quand mes parents m'ont inculqué des choses enfant et que, ben, je comprenais pas forcément pourquoi il me disait ça. Je disais, c'est bien des années plus tard que ça fait écho en moi. Et j'aime
t'as
bien...
T'as compris pourquoi
J'ai compris pourquoi il m'avait dit ça et comment ça allait servir, en fait, dans ma vie. Mmh. Et j'aime bien, en fait, le temps aussi que Jésus nous... En fait, il s'impose pas dans notre... Il explique des choses, tu ne comprends pas, mais il ne s'impose pas, il ne veut pas absolument s'acharner pour que tu comprennes, même s'il nous laisse vraiment tous les éléments en main. Mais nous, on a ce temps de cheminement, ces années pour essayer de saisir, de comprendre. Et voilà, ce temps de cheminement aussi que Jésus a eu avec ses disciples aussi. Mmh. Et je trouve très interpellant.
Mmh. Et toi, Stéphane ?
C'est la même lignée, c'est que Dieu, le plus important, comme il l'a dit, c'est de le connaître, de l'aimer. Ça, c'est le plus important, de vouloir le connaître.
Oui, mais tu dois le connaître. Comment on le connaît, finalement ? C'est à travers la lecture de la Bible, notamment. Mais, et en même temps, si je ne comprends pas la Bible, donc moi, c'est...
Mais c'est ça que je trouve le plus merveilleux dans Dieu, parce qu'il a dit, OK, tu veux me connaître ? OK, commence à lire. Il y a des passages que c'est très clair, tu vas comprendre. Et Dieu va aider cette personne, comme m'a aidé mes enfants, je vois vraiment avec mes enfants tout ça. Il y a des moments que tu vas lire des passages que on ne va rien comprendre. Ok, c'est pas grave, au passe prochain. Et là, on va tomber sur le Jean. Et Jean explique très bien comment Dieu est amour. Donc ça, ça va me parler. Ou peut-être moi, je préfère quelqu'un plus technique, plus droit. Donc on va aller sur Matthieu, que c'est plus Dieu, Jésus est plus vraiment cinématique. Et Dieu va laisser le temps comprendre. Faut pas abandonner, mais il faut continuer à lire des choses. Si on comprend pas, on passe à côté. Peut-être un texte va le comprendre. Ou demander à quelqu'un. Parfois on est tout seul, mais parfois on peut demander à quelqu'un quelque chose, un texte pour moi que tu vas me parler, donc peut-être je te connais un peu mieux, donc lis ce texte là parce que là tu vas comprendre. Et c'est de manière là qu'on va commencer petit à petit à connaître Dieu, et le plus important c'est vraiment de le connaître lui. Qu'est-ce que son exemple,
c'est de le chercher à travers la parole, quoi.
Tout à fait.
Moi ce qui m'a interpellé à un moment donné, tu parlais de j'ai retrouvé la référence de ce que tu disais, c'est dans Jean 14 où il dit je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, et il parle du Saint-Esprit. Je me suis dit ça c'est vraiment aussi notre clé, parce que nombre de personnes finalement lisent la Bible, même des érudits, des théologiens, sans jamais rencontrer Dieu. Sans jamais rencontrer finalement, et pour moi, de ce que j'en comprends, c'est par l'Esprit Saint aussi qui nous guide, justement, nous ouvre les yeux pour comprendre des fameux textes de Lévitique dont tu parlais, qu'au début, on les trouve extrêmement difficiles à comprendre.
Tout à fait, on trouve dans les évangiles qu'il était plusieurs groupes de personnes, il y a eu des pharisiens, ils étaient experts, les experts du parole, mais ils n'arrivaient pas à voir à Jésus, ils n'arrivaient pas à voir le Messie qui était devant eux. Et on voit les disciples qui étaient les simples personnes, qui, pas avec une éducation formelle, qu'ils ont réussi de voir vraiment le plus important.
Oui, c'est ça.
Et après, Jésus, il est en train de former à ce jeune-là, mais pas totalement, qu'avec les informations cognitives, sinon aussi pour la contemplation. Il est puissant.
La contemplation de quoi, du coup, de la Bible ?
On pourrait dire, moi, je voudrais reprendre l'exemple des enfants, par exemple. Le père, il peut dire beaucoup de choses, mais qu'est-ce que les enfants ils vont faire ?
Le comportement.
Le comportement.
Suivre l'exemple, alors.
Tout à fait, l'exemple.
Le comportement, il parle beaucoup plus que les paroles. Donc, les disciples, ils ont réussi d'apprendre de Jésus par contemplation. Ils ont réussi à voir peut-être des leçons plus importantes qu'il daignait l'Apocalypse dans sa vie, ce qui a changé ses propres vies.
Donc, ta définition de la contemplation, là, c'est d'observer comment Jésus agissait.
Observer comme le Jésus agissait et aussi observer comme le Jésus, il est. je dirais comme ça. Et aujourd'hui, pour nous, ça peut être un peu même théorique, parce que pour les disciples, juste étaient là-bas, ils pouvaient lui toucher, ils pouvaient être avec...
C'était palpable.
C'était palpable. Mais aujourd'hui, pour nous, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, dans une certaine époque, moi aussi, j'ai posé la même question et j'étais sincère avec Dieu. Je lui ai dit, Jésus, je voudrais te connaître mieux. Aide-moi. J'étais très sincère avec ma prière. Et moi aussi, je me suis dit, je voudrais connaître qu'est-ce qui veut dire attendre ta parole et tes côtés. Et Jésus était dans ce moment-là. Je crois que c'était même Jésus qui m'a répondu. Il a dit, commence avec les évangiles. Commence à me connaître dans les évangiles, de voir comment j'agis, comment je pensais, comment moi j'étais en train d'être. Et après, quand j'ai fini les évangiles, le poste suivant pour moi, c'était un livre magnifique écrit par quelqu'un qui s'appelle Ellen White. Et c'était le livre qui est en anglais « Desire of Ages ».
Je sais pas, le désir des âges, mais je sais pas si c'est comme ça que ça a été traduit en français. Je sais pas.
C'est le livre qui parle de la vie de Jésus. Donc en fait, c'est un bel livre qui parle avec les détails, explique un peu plus. Donc en lisant aussi ce livre-là, c'est aussi quelque chose de fort pour moi de connaître encore plus. Et peut-être pas connaître lui en palpable, mais j'ai réussi de lui connaître dans ma imagination, dans ce que moi j'ai retenu avec la lecture que j'ai eue.
Et toi alors, cher auditeur, chère auditrice, qu'est-ce que tu souhaites retenir de ce temps de partage pour ta vie? Alors en fait, le livre dont tu parlais, ça, c'est Jésus-Christ, le titre en français, voilà, pour ceux qui veulent aller voir. Alors nous voilà dans la chronique Dieu dans les arts. Alors pour cette chronique, je réfléchissais à une œuvre qui parle de Jésus, de rencontre avec Jésus, de vécu avec Jésus et de la Bible. Voilà, tu viens de nous en donner une. Mais là, moi j'avoue, pendant que je préparais, il y a eu une période d'errance où je séchais complètement. Ah, la panique de la page blanche, je ne sais pas ce que je vais raconter. Et puis il y a un livre qui m'est revenu en tête. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, c'est disons un best-seller dans le monde européen adventiste, « Rencontre avec le Christ » de Roberto Badenas. Ça vous parle ? Tu l'as lu, toi ?
Oui.
Tu connais ? Oui, et puis il est en espagnol en plus, tu l'as lu en espagnol, toi, du coup ?
Tout à fait.
Voilà, il est aussi en français, du coup, hein, parce que moi, je ne parle pas espagnol. Alors, j'avais lu, pour ma part, un autre livre du même auteur, qui est, si je comprends bien, en fait, une version allégée, plus courte de ce best-seller. Cette version est intitulée « Rencontre inoubliable ». Mm-hmm. Alors, on l'avait lu même avec Brian.
Yes.
On l'avait beaucoup aimé, et ça nous avait tellement touché que je l'avais offert à l'époque à une de mes amies qui, plus tard, a donné sa vie à Jésus. Et puis en 2008, si je me rappelle bien, une très touchante comédie musicale inspirée du livre « Rencontre avec le Christ » avait été présentée dans mon ancienne église à Collonges-sous-Salève, en France. Ils avaient mis en scène les histoires de ce livre inspiré de la Bible. D'ailleurs, il y a un DVD de cette comédie musicale, si tu veux voir. Alors, il faut juste, voilà, la qualité vidéaste hein, équivaut à la qualité des caméras et sons des années 2000 dans nos églises. Hein. Mais c'était donc pour moi la première fois que je découvrais un peu le contenu de ce livre. Du coup, me rappelant de celui-ci, j'ai acheté ce mois « Rencontre avec le Christ » histoire de découvrir la version longue et originale et je suis actuellement en pleine lecture. J'en parlais avec Marilyn qui, elle, l'a lu entièrement il y a des années. Toi aussi, j'imagine que c'était il y a des années parce qu'il est un peu vieux ce livre déjà. Et elle me partageait un peu son ressenti. Alors Marilyn, elle compare ce livre un peu comme l'équivalent époque 1990 de ce qu'aujourd'hui propose la série « The Chosen » pour ceux qui connaissent. Il raconte une dizaine de rencontres de Jésus, ces rencontres individuelles qu'on découvre dans les évangiles. Alors, quelques exemples, rencontres avec Jean-Baptiste, avec les disciples, avec la Samaritaine. Et il vient nous immerger dans toutes ces rencontres spéciales que Jésus a eues. Alors, Marilyn me partageait, et du coup, j'ai pu le constater moi-même dans mes lectures, que ce qui est intéressant, c'est que tu as l'impression de lire un roman un peu, parce que Roberto Badenas ne va pas juste raconter le texte biblique ou en parler de manière analytique, théologique. Il a utilisé ses connaissances parce qu'il a étudié la théologie, il l'a enseigné, il a étudié les sciences bibliques aussi. Et puis, il a étudié et utilisé les ressources disponibles, à savoir le Talmud notamment. Alors, moi, je ne connais pas grand-chose. Hein. La Mishnah, Gemara sont les enseignements et doctrines des traditions de la culture juive des 5 premiers siècles de notre ère. Puis grâce à ça, il nous aide à comprendre ce qu'était la vie à l'époque. Il nous décrit un petit peu le cadre géographique, il nous fait plonger dans l'histoire, dans cette rencontre, pour qu'on puisse saisir une part de la profondeur, de la sensibilité de Jésus, le dilemme de la personne en face, et puis comment Jésus va rejoindre cette personne, qu'est-ce que Jésus va donner, puis quelle est l'espérance qu'il y a derrière la rencontre avec Jésus. Du coup, il nous fait observer un peu comme tu nous disais tout à l'heure. Alors, Roberto Badenas dit dans l'avant-propos du livre, je cite, « Depuis que j'ai été rencontré par le Christ, rien ne me semble plus important que la rencontre avec l'autre. » Intéressant. Et puis un peu plus loin, il dit « Il me semble qu'en me glissant ainsi au cœur des rencontres avec Jésus, je me mets à l'écoute des besoins les plus profonds des hommes et des femmes d'aujourd'hui. En même temps qu'à son écoute personnelle, je rencontre à la fois l'autre et le tout autre, donc Dieu. Cette démarche me permet donc, cette démarche me paraît donc utile à 3 niveaux. Elle me permet, 1, de développer une meilleure connaissance des relations humaines, 2, de découvrir les finesses de la psychologie divine, toute empreinte d'amour, et 3, de me nourrir de la présence de celui qui est source de guérison et source de vie. » Voilà, Roberto Badenas parle de ses rencontres bibliques comme porteuses d'espérance, espérance qui peut également aujourd'hui se révéler dans nos propres rencontres avec Jésus. C'est un livre qui nous apporte un regard, une interprétation intelligente, selon moi, et profonde de ces rencontres bibliques, et nous invite aussi à aller replonger dans la Bible, hein, ou nous y replonger pour la première fois peut-être, pour aller redécouvrir ces histoires et par l'Esprit Saint laisser Dieu nous faire grandir dans notre compréhension de qui il est et de la relation qu'il souhaite avoir avec nous. Donc, livre que je recommande. Et puis pour conclure cette chronique, j'aimerais te partager un chant qui parle de l'amour de ce Dieu qui vient à notre rencontre et qui nous remplit de son amour, de sa joie et de son espérance.
Je veux chanter l'amour puissant qui sauve et qui délivre, qui remplit mon cœur maintenant de joie et me fait vivre, de joie et me fait vivre. Je veux chanter de tout mon cœur l'amour de Dieu, l'amour de mon sauveur, l'amour de mon sauveur. Je veux chanter le tendre amour dans les jours de peine, oh, le poids du chagrin moins lourd, consolera sérène, consolera sérène. Je veux chanter l'amour de Dieu qui toujours sur moi veille, qui garde en tout temps entouilleux et jamais ne sommeille, et jamais ne sommeille. Je veux chanter.
le grand amour, immuable et fidèle, qui me conduit de jour en jour vers la vie éternelle.
Dans les psaumes 145, 18, nous dit « L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Faisons appel à lui. » André, pourrais-tu prier pour nous ?
Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui nous voudrions te remercier par Jésus. Et pour que c'est Jésus qu'on trouve dans les Écritures, il est auprès de nous. Il est prêt d'être révélé. Et je demande, Seigneur, pour chacun de nous, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que nous puissions de prendre cette décision de te connaître mieux, de se rapprocher à toi, de contempler à toi. Et que toi, Seigneur, tu puisses être révélé dans nos vies. Et on prie ça. En ce nom, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Alors après la réflexion, suite à l'action, c'est parti, on t'écoute, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Eh ben, si on devait donner un titre à l'action de la semaine, je pense qu'avec tout ce qu'on a évoqué, ce serait « Jésus, je veux te connaître ».
Elle ? Ok.
Alors c'est pas évident de connaître quelqu'un qu'on ne voit pas, que l'on n'entend pas, tu l'as dit. Pourtant Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Il dit encore « Heureux celui qui croit, mais qui n'a pas vu ». Donc, d'après ses paroles, connaître Jésus est à notre portée, non ? Alors je pourrais te présenter qui est Jésus pour moi, mais le mieux, c'est que tu le fasses par toi-même. Alors voilà l'action de la semaine pour toi. Si c'est la première fois que tu ouvres la Bible, je te propose de dire la phrase suivante. Jésus, je veux te connaître. Tu peux même la dire à haute voix si tu veux, ça permet de mettre le corps et l'esprit en action. Puis commence à lire les évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors au début, ça pourra paraître un peu ardu, mais ne te décourage pas, ça te parlera à un moment donné. Et si tu es plus habitué à lire la Bible, je te propose de dire « Jésus, je veux continuer à te connaître plus ». Puis relis les passages que tu connais déjà pour sortir d'autres aspects de la vie de Jésus que tu n'aurais encore jamais vu. Et je t'assure, pour l'avoir fait, c'est impressionnant ce que l'on peut découvrir sur des textes qu'on croyait connaître sur le bout des doigts. À chaque fois qu'une phrase est rapportée de Jésus, lis-la avec attention, même peut-être plusieurs fois, comme pour ancrer cette parole, la faire sens dans ta vie. Essaie de faire cette lecture régulièrement. Alors au début, c'est peut-être un petit peu de discipline à mettre en place, mais après, je te laisse découvrir par toi-même. Belle expérience et belle semaine.
Merci Brian. Alors j'avoue que tu vois, j'ai fait ça les dernières semaines. Pourtant, ouais. On n'avait pas discuté de ton action. J'ai relu tous les évangiles, ça m'a fait un bien fou. Et ouais, c'est vrai que c'est dingue comme en fait, le Seigneur, il se révèle à nous. On grandit tout le temps, on chemine tout le temps. Donc voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous, si tu as envie de faire cette action, sois vraiment béni et accompagné dans cette aventure que tu vas faire. Et puis nous voilà arrivés à la fin de ce culte. J'espère qu'à travers celui-ci, tu as pu être édifié. Et je prie que ce que l'Esprit a planté en nous puisse mûrir, grandir, que nous puissions garder de ces échanges ce qui est bon et ce qui est juste. Et puis si l'équipe des chroniqueurs de ces cultes Espoir, nous sommes tous bénévoles, poursuit sa mission tous les sabbats, c'est que nous sommes passionnés par Jésus et nous avons soif que le plus grand nombre puisse entendre le message de l'Évangile. Alors n'hésite donc pas à partager ce culte autour de toi. Merci Stéphane et Brian pour votre engagement à nos côtés, merci pour vos partages, soyez bénis les amis. Et puis merci Andrei d'être venu partager ce que le Seigneur a mis sur ton cœur et dans ton intelligence pour nous. Sois toi et ta famille vraiment bénis dans votre ministère.
Merci beaucoup. Merci.
Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter, cher auditeur, chère auditrice, une semaine bénie. Sois protégée et guidée. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye!
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.